Radio Okapi. Le journal, présenté par Grace Hamzati Massandi.
Au sommaire de ce journal, les forces armées de la RDC et le M23 respectent la trêve humanitaire de deux semaines annoncée par les États-Unis. Jusqu'à ce dimanche, aucun combat n'était signalé depuis vendredi minuit au nord Kivu entre les belligérants. Martial Papi Mukeba nous en dit plus dans quelques instants. Soupçon de détournement de 3 millions de dollars par quelques anciens membres du bureau du Sénat, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, instruit la police judiciaire des parquets à diligenter une enquête. L'information est contenue dans un communiqué de son cabinet rendu public ce week-end à Kinshasa. Notre invité est le chef d'antenne de l'Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomique INERA à Saloubezia, dans la province du Maniema. Augustin Moulongoy parle des difficultés que cette structure rencontre dans son fonctionnement, tout en demandant l'attention du gouvernement congolais et de ses partenaires. À toutes et à tous, bonjour. Ce journal part de la province du Nord Kivu, où la trêve humanitaire de deux semaines, annoncée par les États-Unis et en vigueur depuis vendredi minuit, semble respectée jusque-là par les FRDC et les rebelles du M23. Cette trêve vise à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est du pays. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Jusqu'à ce dimanche, aucun combat n'était signalé depuis vendredi minuit entre les FRDC et M23 au nord Kivu. Dans le petit nord, l'armée et les rebelles maintiennent toujours leur position initiale. C'est notamment sur l'axe Goma-Sake-Minova, territoire de Masisi, où les rebelles occupent toujours la zone située entre Kiroche et Chacha, le long de la route nationale numéro D. Même chose pour une grande partie de l'est du territoire de Masisi, la quasi-totalité du territoire de Rutshuru et les groupements de Kibumba et Buhumba dans les territoires de Nyiragongo. Au Grand Nord, les positions avancées des FRDC et du M23 sont séparées d'environ seulement 1 km à Matembe. C'est dans cette localité située à 80 km de Lubero Centre que se sont déroulés les derniers affrontements entre les deux belligérants il y a quelques jours. Depuis vendredi, il n'y a pas eu de nouveaux combats, mais des sources sécuritaires parle d'un renforcement en troupes et matériel par les rebelles du M23 dans la zone. Plusieurs humanitaires ont déjà quitté les territoires de Lubero à la suite de l'insécurité. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, ici à Kinshasa, le chef de l'État a présidé vendredi la première réunion de la task force du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cette rencontre intervient après celle du Conseil supérieur de la défense élargi du samedi 29 juin 2024. Il en ressort quelques directives ordonnées par le chef de l'État. Alain Rung nous en parle.
Évaluer la menace, identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité. C'est l'objectif principal de cette task force sécuritaire. Ainsi, au cours de la première réunion de vendredi 5 juillet, le haut commandement militaire a présenté au commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain. Et le président de la République, à l'occasion, a donné l'ordre au haut commandement militaire de lancer des actions idoines pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays, a écrit la présidence dans un communiqué à la presse. Notons que cette task force sécuritaire est placée sous l'autorité directe du chef de l'État et se réunira à fréquence hebdomadaire. Toutefois, précise Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, elle ne se substituera pas au Conseil supérieur de la défense.
Par ailleurs, dans les territoires de Djougouanitouri, les FRDC et la MONUSCO ont lancé depuis une semaine des opérations militaires contre les groupes armés Zaïre et Codeco réfractaires au processus de paix dans les secteurs de Banyarikilo. Certains villages sont déjà passés sous le contrôle de l'armée qui affirme avoir détruit des bastions de ces groupes armés. Les notables et autorités coutumières demandent au gouvernement et son partenaire d'étendre ces opérations dans toute cette entité minière qui sert de source de ravitaillement à ces groupes armés. Le point avec Isaac Raymond.
Ces opérations militaires dénommées Northern Scalpel ont été lancées le 29 juin dans le secteur des Banyarikilo contre les groupes armés Zaïre et Codeco. Elles ciblent les miliciens qui ne respectent pas les différents actes d'engagement signés pour la cessation définitive des hostilités en Ituri. De nombreux militaires sont déployés dans la région avec l'appui de la MONUSCO. La première phase a ciblé la localité de Mandobo, bastion des Zaïre qui s'est retirée sans combat. Ces forces ont poursuivi les opérations dans les localités occupées par la Codeco, notamment Itende Idi-Edisei, l'une de ses plus grandes bases opérationnelles, qui a été bombardée par des hélicoptères des FARDC. Une dizaine de miliciens ont été neutralisés et 3 militaires et 1 civil blessés. Plusieurs armes ont par ailleurs été détruites. Dans leur fuite, ces miliciens à des bandades ont tué 6 Chinois mardi à Abombi et 6 autres personnes brûlées dans leur maison vendredi à Beba. Les autorités coutumières locales encouragent l'option militaire car selon elles, l'approche des dialogues communautaires a montré ses limites. Elles demandent au gouvernement d'intensifier ses opérations dans tous les 13 groupements sur les 15 occupés depuis environ 5 ans par ces hommes armés. De son côté, le porte-parole de l'armée en Ituri rassure la population que ces opérations vont se poursuivre. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et dans la province de la Tchopo, la première vague de bénéficiaires dans les processus d'indemnisation des victimes des guerres par Frivao ont vu leur compte bancaire être alimenté par la Robank. Ces précisions ont été fournies par la secrétaire rapporteure du Frivao, Mimi Mopunga, au cours d'un point de presse qu'elle a animé samedi au siège de cette institution à Kisangani. Quant aux supposées victimes qui se sentent lésées, qu'elles puissent s'adresser au Frivao, indique-t-elle. Mimi Mopunga, dans ses propos recueillis par Jacques Mukonkole.
Ils ont bien sûr accompagné les victimes pendant 23 ans d'IRA pour qu'ils puissent être indemnisés. Maintenant qu'on est à la phase, les gens touchent déjà quelque chose. Je pense que leur mission devait se limiter à ce niveau-là pour laisser maintenant aux victimes de toucher calmement leur indemnisation. Il n'y a pas la raison d'être, de créer encore les mouvements, des marchés, des revendications. Ils y revendiquent quoi? Parce que le décret dit qu'on doit payer que le vrai victime. Et si vous n'êtes pas victime, vous n'avez pas droit à bénéficier. Vous allez bénéficier peut-être de l'indemnisation collective. Là où c'est pour toute la population de Kisangani qui est traumatisée, qui a subi les effets de la guerre. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous serez bénéficié. Mais pour l'indemnisation individuelle, c'est seulement les gens ayant rempli les critères. Et puis, on ouvre encore une porte pour ceux qui pensent que leur dossier a été rejeté à tort. Ils n'ont qu'à introduire des recours. Leur fichier là, c'était pas devant les OPJ, c'était devant des agents de Frivao.
Notez toutefois que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux suspend les mouvements débiteurs du compte de cet établissement public ouvert dans les livres de la Robank. Selon les communiqués du ministère datés de vendredi, ceci en attendant l'audit final diligenté par l'IGF sur les activités de Frivao. Parlons des soupçons de détournement de 3 millions de dollars par quelques anciens membres du bureau du Sénat. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux instruit l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets à diligenter une enquête. Dans un communiqué signé ce week-end par son directeur de cabinet, le ministre d'État Constant Mutamba affirme rester saisi des soupçons des scandales financiers qui pèseraient sur certains anciens membres de l'ancien bureau du Sénat. Le président intérimaire du bureau sortant de la chambre haute du Parlement accuse le bureau d'âge d'avoir détourné cette dotation des fonds spéciaux d'intervention alors que celui-ci dit n'avoir trouvé aucun fonds dans la caisse du Sénat. Michel Kifindangoy.
L'instruction du ministre de la Justice d'ouvrir une enquête vient confirmer la rumeur de détournement des fonds publics au Sénat. Cette rumeur est partie de la lettre de l'ancien président du bureau, adressée le 1er juillet à l'IGF, dans laquelle Sangou Mutomongonde accuse le bureau provisoire d'être à la base d'un présumé détournement de 3 millions de dollars, pourtant consigné dans le procès verbal de remise et reprise du 17 mai. Rejetant en bloc toutes ces accusations, le président du bureau d'âge affirme dans un communiqué n'avoir trouvé aucun dollar dans les caisses du Sénat. Pascal Kindwelo dit par contre avoir hérité jusqu'à 3 millions de dettes du bureau sortant. Toutefois, certaines sources accusent le président intérimaire sortant d'avoir retiré une somme de 750 000 dollars 11 jours après la remise et reprise avec le bureau d'âge. Ce que reconnaît dans son tweet du 5 juillet Sangou Mutomongonde qui dit avoir retiré cet argent pour payer à certains anciens sénateurs. Face à cette confusion, le ministre de la Justice Constant Mutamba exige une enquête. La CAJ soutient l'interdiction de quitter le territoire national contre toute personne impliquée.
Merci à vous, Michel Kifindangoy, pour toutes ces précisions. D'une affaire de détournement à une autre, la Fédération provinciale du Mouvement social pour le renouveau MCR Maniema appelle à l'implication du chef de l'État dans l'affaire de détournement des fonds alloués au projet de forage et lampadaire à Kinshasa. Dans une sortie médiatique ce samedi, le secrétaire exécutif fédéral du MCR Maniema plaide pour l'équité de la justice congolaise tout en exigeant la mise en liberté provisoire de François Roubaud Tamasumbuko en attendant le retour au pays de l'ancien ministre des Finances qui, selon cette formation politique, est un acteur principal dans ces dossiers. On écoute Yuma Busangu, grand format, au micro de Florence Kizalunga.
La fédération du MCR Maniema se sent offusquée et estomaquée par une justice variante et à double vitesse, utilisant notre autorité morale comme matériel didactique dans un état de droit qui tarde à produire ses effets. Par ailleurs, l'évidence de l'existence d'une correspondance du ministre honoraire du développement rural demandant la surséance des décaissements par l'excellence ministre des Finances auprès des prestataires tant que le résultat attendu n'était pas atteint, ne fait plus de lui l'incriminé principal dans cette affaire. Dès lors, le ministre honoraire du développement rural n'avait plus jamais été consulté par l'excellence ministre des Finances dans les opérations de décaissement. Tenant compte de ça, la fédération du MCR Maniema demande aux instances politiques, judiciaires et sécuritaires la relaxation du ministre honoraire François Roubaud Tamasumbuko par sa mise en liberté provisoire à en attendant le retour à tout moment de l'excellence ministre des Finances, Nicolas Kazadi.
L'actualité ce matin nous amène aussi dans la province du Sankuru où plus de 700 ménages vivent actuellement sans abri et dans les conditions inhumaines depuis la semaine dernière dans les territoires de Loubefou. L'administrateur des territoires assistants indique que les feux des brousses ont ravagé plus de 300 maisons réparties dans sept villages. Le député national Hippolyte Njate, élu de Loubefou, demande au ministre des Affaires sociales d'organiser une assistance humanitaire en faveur des familles sinistrées. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 700 maisons ont été brûlées dans les territoires de Loubefou depuis le début de la semaine dernière à ce jour. Le feu a consumé des centaines de maisons dans la localité de Makadi, dans le secteur de Basongo et dans la localité de Ousenge, dans le groupement de Benankoy, secteur de Njovo. Dans ce même secteur, le feu a encore consumé une centaine de maisons dans la localité de Minga, dans le groupement de Songo et des maisons dans la localité de Asekokalo. Au cours de la même semaine, ces feux de brousse ont également ravagé plus de 100 autres maisons dans la localité de Njalo, dans le groupement de Okoto, Sala et une trentaine de maisons dans la mission catholique de Loubefou. D'après Pierre Njoko Ochudi, administrateur des territoires assistants en charge des finances, les familles sinistrées vivent dans des conditions difficiles. Le député national Hippolyte Njate, élu de Loubefou, demande au gouvernement central d'organiser une assistance humanitaire en faveur des familles sinistrées.
C'est une aide d'urgence qui doit permettre à reloger les sinistrés de son sans oublier les besoins en vivres, c'est-à-dire de nourriture, les médicaments, les vêtements et le matériel aratoire.
Signalons que ces feux de brousse ont également brûlé quelques écoles et les centres de santé. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, sachez que l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté rend public le chronogramme du processus de publication des résultats de l'examen d'état session 2023-2024. Dans un communiqué vendredi, Jacques Odiamusungai indique que pour la période post-épreuve, l'inspection générale a mis en œuvre les moyens possibles pour rassembler les mâles d'items au Centre national des corrections situé à Kinshasa. Les détails de ce chronogramme avec vous, Étienne Lissoumbou.
Selon ce chronogramme, la réception des mâles est prévue du 1er au 20 juillet, le dépouillement du 1er au 28 juillet, le scannage et des contrôles de copies scannées du 3 juillet au 1er août, des contrôles des résultats avant publication du 20 juillet au 20 août et l'élaboration du palmarès et production du rapport final du 11 au 24 août prochain. Une période de 55 jours est programmée pour réussir toutes ces opérations, note le communiqué. Dans ce communiqué, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté précise aussi que la session 2023-2024 de l'examen d'État a connu un effectif de 962 887 candidats au cycle long, dont 42% des filles et 5417 candidats au jury national du cycle court, dont 18,5% répartis dans 2960 centres de passation.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle la jeunesse à rester en Afrique. Quelques jours après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Mauritanie, alors qu'il tentait de rallier les côtes espagnoles des Canaries, le Premier ministre du Sénégal déclare que l'avenir du monde est en Afrique dans un discours en plein air.
L'invité.
Notre invité nous vient de la province du Maniema, Augustin Moulongoy, chef des stations INERA Salubezia. Il s'exprime sur les difficultés que cette structure rencontre dans son fonctionnement. Il estime qu'elle mérite l'attention du gouvernement congolais et de ses partenaires. Il s'est exprimé ainsi lors du passage de la mission de supervision conjointe gouvernement FIDA la semaine dernière. Augustin Moulongoy s'entretient avec Florence Kizalunga.
Ingénieur Augustin Moulongoy, bonjour.
Bonjour encore madame la journaliste.
Nous sommes ici au camp des agents de INERA Salubezia. Nous voyons presque toutes les maisons s'est abîmées. Comment est-ce que vous vivez ici?
D'abord madame, je vous dirai que je suis très ravi de joie parce que je viens de recevoir une grande délégation venue du gouvernement central ainsi que du Bayer FIDA, y compris aussi le partenaire Padri. Alors pour ce qui est des bâtiments, vous constatez l'état de délabrement très avancé de ces bâtiments, simplement parce que ce sont des bâtiments qui ont été construits depuis l'époque coloniale, donc en 1950.
Ça s'appelle Institut National d'études et de recherches agronomiques. Avec cet état des choses, où est-ce que vous menez vos recherches?
Très souvent, nous avons fait des recherches à travers la station d'abord, ça c'est de 1. D'aider la recherche que nous menons ici, comme vous le savez, les activités au sein de la station sont toujours structurées. Pour ce qui est de la recherche, madame la journaliste, je vous dirais que nous avons des difficultés pour mener ces recherches. C'est vrai, nous devrions quand même faire appel à tous ces chercheurs qui sont à Kindu, à Kalima, venir s'installer ici au niveau de Salubezia, mais ça pose un problème pour le logement de ces chercheurs. Raison pour laquelle vous allez constater avec nous que la recherche n'est pas assez approfondie, dans le sens que nous n'avons pas même le bâtiment qui peut permettre à ce que nos chercheurs puissent venir loger et commencer à faire des recherches. Mais entre-temps, nous faisons des petites recherches sur certaines spéculations comme le maïs, le manioc. Les chercheurs ont toujours mené des recherches à partir de ces différentes spéculations que je viens d'évoquer tout à l'heure, madame la journaliste.
Mais avec le champ que vous venez de parler aujourd'hui à la délégation, vous êtes à quel niveau de production pour ces jours?
À ces jours, je vais vous rassurer ici, madame, que nous avons dans le compte du projet PADCA 6P, nous avions produit une quantité de 5 tonnes de riz. Et là, c'est la semence de base qui venait d'ailleurs d'être visitée par la délégation qui est venue de Kinshasa et de Kindu.
Vous avez combien les personnels qui travaillent avec vous, INERA Salubezia?
En fait, pour ce qui concerne le personnel, nous avons 62 agents matriculés mais non payés. Et cela constitue d'ailleurs un grand frein pour le développement de la station. Raison pour laquelle nous avons toujours des petites difficultés, mais pour ce qui concerne les agents qui travaillent, qui accompagnent ces travaux ici, nous avons plus de 21 ouvriers, nous avons 18 chercheurs, nous avons 14 techniciens de recherche, nous avons aussi 9 agents administratifs.
Quand vous avez un agent qui n'est pas payé, est-ce qu'il a du courage pour venir travailler et avec les ouvriers, vous les payez avec quels moyens?
Très souvent, nous nous débrouillons avec les moyens de bord, ce qui veut dire que nous avons difficile à conduire quelqu'un qui n'est pas motivé, qui n'est pas payé, qui n'est pas pris en charge par l'État congolais. Ça devient quand même casquette chez nous ici, mais de toutes les façons, avec les moyens de bord, nous nous sommes toujours arrangés pour faire les activités de la production semencière. Toutefois, nous pouvons peut-être lancer un cri d'alarme aux partenaires qui nous arrivent ici, de penser toujours à une petite motivation en termes de primes et de prestations pour les chercheurs ou soit les agents qui ont toujours accompagné les travaux de la production de semences de base et la semence de pré-base.
Mais votre bâtiment administratif, c'est comme si vous êtes toujours à l'extérieur et vos documents sont toujours ici, logés ici.
Nous sommes très contents d'abord de recevoir le partenaire parce que lui-même a constaté, il a vu, il a palpé du doigt les réalités de nos bâtiments. Nous espérons avec cette présence ici, le partenaire pourra songer à la réhabilitation de notre station comme nous avons reçu le partenaire Padri, y compris aussi la délégation du FIDA qui sont venus immédiatement au niveau de la station. Nous pensons avec leur arrivée, ça sera vraiment une bonne chose et ça sera quand même peut-être l'avancement de notre station pour ce qui concerne la réhabilitation de la station INERA Salubezia.
À part la culture des riz, est-ce que vous cultivez encore d'autres choses ici à la station INERA Salubezia?
Très souvent, nous avons toujours fait assez de spéculations. Par exemple, que pour le compte du projet PADCA, nous avions entamé les travaux pour la spéculation maïs, manioc. Je vais vous rassurer ici que dans le compte du projet PURPA, nous avons réussi une variété de manioc biofortifiée, une variété qui n'a jamais existé au Maniema. Déjà à Salubezia, cette variété existe parce que c'est une variété qui était venu du Congo central à l'INERA Ngimbi.
C'est que cette variété est sur place ici, vous cultivez et vous donnez ça aux gens?
Bon, comme c'est encore une nouvelle variété en introduction, la première des choses, nous avons préféré que cette variété soit d'abord installée au niveau de la station. Au fur et à mesure, au fil du temps, nous allons maintenant commencer à faire la vulgarisation de cette variété. Nous allons commencer à appeler les petits producteurs pour qu'ils puissent bénéficier de cette variété et commencer à faire au moins quand même la dissémination de cette variété.
Monsieur Augustin Moulongoy, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Notre invité, le chef des stations INERA Saloubezia au Maniema, était interrogé par Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rung et mis en onde par Mimi Kindou. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci.
Retrouvez les informations.